Pour l'impôt, c'est très simple. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est arrivée à un de mes clients, qui est quelqu'un qui fabrique des produits que vous avez, chacun d'entre vous chez vous, j'en suis sûr, produits qu'il nous a imposés il y a à peu près une quinzaine d'années. Un produit génial auquel personne n'avait pensé, et puis cet homme a dessiné un jour un prototype et est allé le proposer aux centrales d'achat qui ont dit: mais c'est fou ce truc, personne n'avait pensé, allez-y produisez et nous on achète tout ce que vous allez produire. Et on est certain d'ailleurs que vous n'arriverez jamais à produire tout ce qu'on va vendre parce que ce produit est génial et vraiment c'est un marché complètement émergent. Je vous dis pas volontairement ce que c'est et c'est pas par cachotterie, mais tout simplement pour une raison simple, c'est que si je vous disais le nom, et cette personne, enfin l'entreprise serait immédiatement déréférencée, donc serait appelée à disparaître, mais j'y serai tout à l'heure le propos, j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est que le déréférencement. Cette entreprise donc est née donc en région parisienne il y a une quinzaine d'années, avec 5-6 salariés. Très vite on est passé à 10, puis à 20, puis à 30, puis 50. Et puis les centrales d'achat ont toutes référencé ce produit, l'ont distribué dans des conditions vraiment optimum. Donc, on est très vite passé à une centaine de salariés, et puis on est arrivé il y a quelques années à pas loin de 200 salariés, ce qui pour une création est quand même pas si mal, avec des gens fort bien traités, bien payés, des cadres, etc. Enfin, vraiment une petite boîte, une belle PME française qui va bien. Donc, je vous l'ai dit, des ateliers en région parisienne, et puis deux usines en province, qui, ma foi, avaient créé de l'emploi localement, ce qui ne déplaisait pas forcément aux gens qui vivaient dans la région. Et puis, un beau jour, le chef d'entreprise s'est rendu compte que ces produits qui avaient la cote auprès des consommateurs étaient moins commandés par les centrales d'achat. Il y avait bizarrement des commandes qui baissaient, et donc il a décidé de prendre rendez-vous avec les centrales et dire: ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai pas su évoluer? Est-ce que le produit lui a plu? Est-ce qu'il plaît plus? Pourtant, on me dit que ça va bien. On a dit: non, pas du tout, il y a un petit problème, cher ami, c'est que vous êtes quand même un peu cher et qu'on aimerait que vous baissiez vos prix. Votre produit va bien, mais vous êtes trop cher. Alors, il a commencé à revoir ses prix de fabrication, ses prix de revient. Bon, on fait appel dans ce cas-là aux professionnels, à l'expert comptable, c'est comme ça que j'interviens. On commence à revoir les prix de revient. On tire un petit peu les prix. Ça veut dire, il faut être très clair que là où il y avait des hommes, on commence à envisager les machines. Ça veut dire aussi très clairement que là où il y avait des contrats à durée déterminée, les gens ne sont pas forcément renouvelés. Ça veut dire aussi que là où il y avait des gens qui étaient sur le point de prendre leur retraite, eh bien, ils ne seront pas forcément renouvelés. C'est tout à fait la démarche dans laquelle nous sommes du néolibéralisme, comme on le connaît, tout à fait déshumanisé. Le chef, malgré tout, l'entreprise, qui est quelqu'un un petit peu, j'allais dire, de la vieille école, et qui mesure son succès à son nombre de salariés, et qui dit, quand on lui demande comment ça va, il dit, ça va bien, j'ai 200 salariés, n'avait pas du tout l'intention de réduire ses effectifs et son entreprise, et donc a décidé de baisser, de faire tout ce qu'il pouvait pour tirer ses prix, tout en essayant de limiter la casse, et donc de maintenir ses effectifs, et le personnel qu'il avait donc accompagné depuis le début de la création de l'entreprise. Il a baissé comme ça ses prix un petit peu, et au lieu de vendre 80, il a réussi à descendre son prix à 77, qui a donné tout à fait satisfaction aux centrales d'achat. Satisfaction, mais pas très longtemps, puisque quelques semaines plus tard, ils sont revenus à la charge en disant: voilà, vous êtes très bien comporté, vous avez réussi à baisser votre prix, mais on est certain que si vous faisiez un petit effort encore, vous pourriez peut-être non plus nous accorder 77, mais qui sait, 74, 73, peut-être 72, et si vous le prenez bien, peut-être un peu moins encore. Alors là, il a dit: pas question, parce que là, on a fait vraiment du bon boulot, on a tiré nos prix, on ne peut pas descendre plus bas. Plus bas, ça veut dire mettre en péril l'existence de l'entreprise. Et on lui dit: mais attendez, vous n'êtes pas bien ou quoi? Vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est la mondialisation, c'est la globalisation, il y a des pays où la vie est moins chère, et que si vous étiez un petit peu futé, eh bien, vous iriez produire dans ces pays moins chers, évidemment, que nous, par ailleurs, eh bien, nous sommes en train de grandir, et grandir sacrément, ça veut dire qu'on est en train de s'implanter dans le monde entier, de conquérir la planète, c'est pas une façon de le dire, c'est vrai. Et que donc on pourrait vous offrir non seulement les débouchés sur le territoire français, ce qui est déjà pas mal, grâce à nous vous avez quand même bien prospéré, mais en plus, vos produits, on va les vendre en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Mexique, au Brésil, partout. Partout sur la planète, et vous voyez un peu les débouchés qu'on peut vous apporter si vous faites l'effort de bien vouloir comprendre un petit peu quand même nos difficultés, entre guillemets. Alors le chef d'entreprise a refusé, et puis du jour au lendemain, eh bien les commandes ont disparu. Nous, consommateurs, on n'a plus trouvé les produits, on s'est demandé pourquoi, et l'entreprise s'est retrouvée à devoir mettre beaucoup de monde en chômage technique, à devoir faire ce que l'on connaît bien, je veux dire, hein, c'est fermer l'entreprise un certain nombre de jours dans la semaine, dans le mois, etc. Jusqu'au jour où il s'est dit c'est pas possible, et ça a été un bras de fer, mais il a perdu le bras de fer, bien sûr, parce que lui, c'était son unique débouché, alors que vous l'imaginez, les grands distributeurs, eux, ont d'autres produits à déboucher, donc ont les moyens de tenir la distance et la durée. Et donc, il a dû reprendre rendez-vous avec la centrale d'achat en disant: bon, ok, vous avez gagné, donc qu'est-ce qu'on fait? Et par contre, j'accepte une partie de votre deal, c'est-à-dire que je refuse de licencier, de jeter mes salariés, mais chaque fois que quelqu'un partira, ben, je ne vais pas le remplacer. Chaque fois que quelqu'un sera en retraite, eh bien là aussi, on ne remplacera pas. Les gens durés déterminés, on ne remplacera plus. Et puis, petit à petit, on va commencer à sous-traiter un petit peu dans des pays où la vie est moins chère. Pays où la vie est moins chère, c'est très simple. Vous savez qu'en France, une heure de travail avec ce qu'on appelle ces charges sociales, donc l'ensemble des prestations sociales comprises, ça coûte environ 20 euros. Si on traduit en dollars, pour faire simple, en considérant qu'un dollar est égal à 1 euro, c'est environ 20 dollars ou 20 euros pour une heure de travail. Quand on va aux Philippines, c'est pas 20, mais c'est 6. Mais c'est pas pour une heure, c'est pour une journée de travail. Et puis, quand on va en Thaïlande ou en Chine, cette fois, c'est plus 6, c'est 3. Mais c'est pour une journée de travail qui commence à 8h du matin, qui se termine à 2h du matin. Donc évidemment, il n'y a pas photo, si vous me permettez l'expression, et donc il est évident qu'il y a des pays moins 10 ans socialement. Et donc on a commencé, l'entreprise a commencé comme ça, à sous-traiter 5% en Thaïlande, en disant bon 5% c'est pas grand chose. Et puis évidemment, est arrivé ce qui devait arriver, on est passé à 10, vous l'avez compris, puis à 15, puis à 20, puis à 30, puis un jour on est arrivé à 50-50. 50% de la production sur un territoire national, 50% en Thaïlande. Et la centrale d'achat, on dit voilà, c'est formidable, vous avez contenu vos prix, baissé vos prix, grâce à vous, on fait de belles affaires, on vend toujours de plus en plus. Mais vous, on vous connaît bien, on vous estime bien, mais ces gens là-bas, si loin, ces Chinois, entre guillemets, comme ils ont dit, on les connaît pas, et on voudrait bien aller voir comment travaillent ces gens si loin, on voudrait voir comment ça se passe, comment sont les ateliers, est-ce que les gens sont aussi assidus au travail qu'on nous le dit, est-ce qu'on est sûr que c'est fiable, est-ce qu'on est sûr aussi qu'ils pourront supporter une pression, une charge encore plus importante de commandes, puisque nous, on va ouvrir maintenant les marchés mondiaux, et donc on voudrait aller avec vous, que vous nous organisiez un petit voyage en Thaïlande, comme ça, pas très longtemps, 34 jours, pour voir un peu comment ça se passe. Chef d'entreprise n'a pas trop compris, s'est dit, mais après tout, moi j'ai rien à cacher, j'ai toujours bien travaillé, j'ai un cahier des charges tout à fait respectable, tout à fait montrable, etc. Donc s'ils veulent voir, pourquoi pas, on organise un truc. Donc il a été chargé de prendre les billets d'avion, de réserver les hôtels, etc. Ils ont fait une visite très intéressante là-bas, ils ont vu de très très beaux ateliers avec des gens très assidus, en blouse blanche, tout le monde, un sol brillant, tout le monde au travail, personne qui lève le nez, etc. Et tout le monde est rentré vraiment tout à fait convaincu de ce choix de sous-traitant. Et puis, les hypermarchés ont donc trouvé ça formidable, ont débouché le champagne, et ont dit vraiment, vous êtes un type bien, vous avez su comprendre l'évolution de l'économie, etc. Bon bref, le discours que vous connaissez bien, mais Raffarin le fait mieux que moi, donc vous connaissez à peu près le discours. Et au bout de quelques temps, mais quand je dis quelques temps, c'est pas longtemps, c'est quelques jours, les centrales d'achat ont décidé qu'elles avaient encore un petit quelque chose à voir, qu'elles avaient oublié, bizarrement, d'observer, comme ça, en Thaïlande. Et elles ont décidé de rappeler les sous-traitants thaïlandais en oubliant juste un petit truc, c'est de prévenir le chef d'entreprise français. Et ils sont retournés en Thaïlande, en cette fois tenant un langage tout à fait différent, en disant voilà, il y a un petit problème entre vous et nous, il y a un français, ce français il sert à rien aujourd'hui. Vous fabriquez, nous on vend, et si vous en êtes d'accord, on traite en direct, on vous achète quelques centimes plus cher chaque produit, mais comme vous en faites beaucoup, ça fait beaucoup d'argent, et puis nous, ça va nous permettre de baisser aussi quelques centimes, ce qui va permettre d'en vendre encore beaucoup plus aux consommateurs, et donc bien sûr, c'est un marché gagnant-gagnant, comme il est coutume de dire dans ce monde-là. Les Thaïlandais ont refusé dans un premier temps en disant mais non, si on existe, c'est quand même grâce à ce petit français qui nous a permis de développer nos affaires, il n'est pas question de lui jouer ce tour. Mais les centrales d'achat, fleurons de notre économie nationale, ont su faire comprendre que de toute façon, des gens qui ont faim sur la planète, il y en a quand même pas mal. Des sous-traitants potentiels sont un produit qui finalement ne fait pas appel à une technologie très compliquée. Il y a beaucoup de gens qui sauraient les fabriquer. Et que donc, s'ils ne jouaient pas de ce jeu, finalement, non seulement le français avait perdu, mais eux avec, qui serait donc de bon ton de les accompagner dans cette démarche. C'est donc ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, notre entreprise essaye de redémarrer sur ce qu'on appelle un marché de niche. Vous savez, c'est la mode de dire ça. Et à un peu moins de 10 salariés, essaye de se récupérer avec toutes les difficultés que vous imaginez. C'est pas comme ça un cas anecdotique, je veux dire, pour faire le malin sur scène, mais c'est simplement pour vous dire que ça, dans les entreprises, on le vit tous les jours. Alors on nous parle Metal Europe, on nous parle Alstom, on nous parle des plus grosses, parce que ça c'est spectaculaire, puis la télé c'est bien, mais sans nous dire que bah, il y a des dizaines et des dizaines et des centaines et des milliers d'entreprises qui chaque jour disparaissent. Quand Alstom disparaît, il y a aussi beaucoup de sous-traitants dans le giron qui bien sûr vont être aspirés par le bas, mais ça évidemment on ne nous dit pas forcément. Tout ceci aussi, quand on parle des localisations, quand on parle de destruction d'emplois, c'est pas tout à fait une fatalité. Je veux dire, si ça se produit, alors bien sûr que c'est une logique néolibérale, bien sûr que le capitalisme débridé nous amène à ça, mais il faut savoir qu'il y a aussi une pression de ce monde de la grande distribution qui veut des prix toujours plus bas et qui donc impose, pour elle en tout cas, pas pour nous, et qui donc impose des conditions de production toujours plus basses et toujours à des conditions inférieures.